Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Et les choses qu'il nous donne à faire, les instructions qu'il nous donne sont toujours pour notre croissance et toujours pour notre réussite. Dieu n'a jamais en tête l'échec de quelqu'un. Jamais, jamais. Parce que Dieu lui-même est réussite. En fait, la réussite, c'est sa personne même. Vous voyez un peu l'idée? Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'entendre, comprendre et appliquer la parole de Dieu, qui est l'élément premier et essentiel pour une vie de succès en succès. En fait, Dieu a toujours prévu le succès pour les gens. Après, bien sûr, il faut distinguer ce que c'est un succès humain et un succès de Dieu. Mais Dieu, dans sa volonté pour les êtres humains, a toujours prévu que l'être humain croisse, que l'être humain progresse dans tous les domaines de vie. Dieu n'a jamais prévu qu'une personne ait une vie d'échec. Jamais, jamais, jamais. Et Dieu mesure le succès d'une manière similaire à ce que les êtres humains mesurent le succès. Donc, si Dieu veut votre succès, comment se fait-il que beaucoup de gens ne marchent pas dans le succès? Comment se fait-il que tellement de gens n'agissent pas et ne vivent pas comme si Dieu leur avait donné accès au succès? Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'il y a un décalage évident entre ce que Dieu veut pour les êtres humains et ce que la majorité des êtres humains vivent? Comment se fait-il encore qu'il y ait des guerres, par exemple? Comment se fait-il que des gens meurent malades alors que Dieu veut la santé? Dieu n'a jamais prévu la maladie, soit dit en passant. Hein. D'accord? C'est clair pour tout le monde. Hein. Dans l'Ancien Testament, juste pour le contexte, c'est la Bible. Elle est divisée en deux grosses sections. Ancien Testament et Nouveau Testament. Ça vous dit quelque chose? En très gros, ok. L'Ancien Testament, c'était techniquement avant que Jésus ne vienne. Ce qui veut dire que Dieu opérait avec l'être humain d'une manière beaucoup plus sévère, puisque le pardon n'avait pas été octroyé. C'est aussi simple que ça. Et donc, le péché faisait que la maladie venait contre les gens. N'est-ce pas? Et Dieu, des fois, punissait les gens avec la maladie parce que Christ n'était pas venu. Vous voyez un peu l'idée? Le jugement est tombé sur lui. Dieu, aujourd'hui, n'exerce pas de jugement contre les gens. Aujourd'hui, après, bien sûr, à la fin des temps et tout ça, ça va être autre chose. Mais aujourd'hui, Dieu n'exerce pas son jugement contre les gens. J'ai parlé avec une personne, il y a 2 semaines environ, qui a fait un péché, on va dire, entre guillemets, grave. Si je veux dire comme ça, les péchés capitaux, ça veut dire quelque chose? Voilà, c'est pas dans la Bible si jamais. Donc, pour Dieu, il n'y a pas de péchés capitaux. Tous les péchés sont extrêmement graves. Depuis mentir à tuer quelqu'un. Et oui, c'est vrai. Et pour Dieu, à son niveau à lui. Hein. Écoutez bien, hein. Je parle de son niveau à lui. Je ne parle pas entre êtres humains. Hein. Entre êtres humains, il y a des péchés plus graves que d'autres. Par exemple, si quelqu'un vous fait du mal d'une manière très, très, très dure, c'est normal que vous n'ayez plus à lui accorder votre confiance. D'accord? Et je précise, il y a une grosse différence entre le pardon, pardonner quelqu'un, et lui refaire confiance. Hein. D'accord? Juste parce que vous avez pardonné une erreur que quelqu'un a fait contre vous, ne veut pas dire que vous devez lui octroyer la confiance de nouveau. Vous voyez un peu l'idée? C'est clair pour tout le monde? Okay. Souvent on dit oui, si je pardonne, ça veut dire que je dois faire confiance derrière. Non. 1000 fois non. D'accord? La confiance, elle se construit, elle se gagne. Je parlais avec quelqu'un hier de la confiance, c'était très intéressant. Quand une confiance est brisée, imaginez la confiance de base quand vous rencontrez quelqu'un, elle se construit, comme un édifice. Vous construisez, construisez. Maintenant, le problème, c'est que quand la confiance elle est brisée, si vous voulez la reconstruire, vous devez la construire sur des ruines. Pour toute personne un petit peu intelligente, c'est-à-dire tout le monde ici, construire sur une ruine, c'est difficile. Parce que vous avez, c'est, quand la confiance elle est cassée, vous n'allez pas enlever la confiance cassée. Vous voyez, vous devez reconstruire dessus. Et ça donne un élément un peu bizarre. Vous imaginez des ruines, puis on doit faire un étage sur des ruines comme ça. Ce n'est pas joli. Et donc, une confiance cassée, faites très attention. Ne cassez pas la confiance que les gens vous donnent. Hein. C'est très important. Par contre, tout en pardonnant la personne, tout en ne lui faisant plus nécessairement confiance à la personne, vous pouvez lui pardonner. D'accord? Mais par contre, pour revenir à ce que je disais, c'est que Dieu, au niveau de Dieu, si vous voulez, Dieu est conscient à notre échelle humaine qu'il y a des péchés plus graves que d'autres, mais au niveau gravité, Dieu, n'importe quel péché est méga grave. Vous voyez un peu l'idée? Au niveau de Dieu, vraiment, on va dire vertical, vraiment Dieu-homme. Pour Dieu, il est bien sûr conscient que, par exemple, tuer quelqu'un est bien plus grave que de voler quelque chose. Il le sait, et pour les êtres humains, il a d'ailleurs donné des instructions sur comment gérer ça. Mais pour lui, au niveau de sa sainteté à lui, n'importe quel péché est une tâche qu'il ne faut pas. Vous voyez un peu l'idée? Et la personne me disait, ouais, je ne suis pas digne de l'amour de Dieu à cause du péché que j'ai fait. Et elle pensait même que Dieu la jugeait, que Dieu la punissait. Vous voyez un peu l'idée? Parce qu'elle avait perdu son travail. Elle disait, c'est Dieu qui me punit, c'est sûr. Et il faut comprendre une chose, quand Dieu punissait dans l'Ancien Testament, c'était plus des trucs genre du feu qui tombait du ciel. Vous voyez un peu l'idée? Des étoiles qui, enfin pas des étoiles littérales, mais du feu qui tombait du ciel. C'est des trucs extrêmement violents. Donc le jugement de Dieu Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il ne s'exerce pas sur les êtres humains. Vous voyez un peu l'idée ? C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent blasphémer Dieu et rien ne se passe. Alors qu'à l'époque, il y a même des traces extra-bibliques de ça, il y a des gens qui blasphémaient Dieu et ils prenaient feu d'un coup. Comment c'est possible ? C'est parce que le jugement est tombé sur Christ, d'accord ? C'est pour ça que Jésus est mort sur une croix d'ailleurs. Et j'aimerais qu'on voie un petit peu ça parce que Dieu veut notre succès. Dites « Dieu veut mon succès ». Et on va regarder ça. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, qui donne une description de la personne qui vit selon Dieu. Regardez ça. C'est clair pour la question de confiance ? Faites confiance aux gens, mais la confiance, elle se construit. Il y a une confiance de base qu'on donne à tout le monde. Par exemple, quand j'ai rencontré Natacha, puis je lui dis comment tu t'appelles, elle m'a dit Natacha, j'ai pas fait, je suis pas sûr. Vous voyez, il y a une confiance de base qu'on donne à tout le monde. Mais une confiance, elle doit se construire. Vous voyez un peu l'idée ? Elle se construit comme un édifice. Et quand quelqu'un, vous avez construit sa confiance avec lui, prenez-la au sérieux. Parce que cette confiance peut vous permettre d'aider cette personne à sortir de situations difficiles. Vous voyez ? Ok. Là, il va nous donner une description de l'homme ou de la femme qui marche dans les bénédictions de Dieu. Regardez bien. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Intéressant ça. Hein, vous avez remarqué ça ? Bienheureux l'homme. Mais après, il décrit, parce qu'on pense bienheureux, vous savez, on a cette vision un petit peu religieuse du bienheureux. Un truc comme ça qui est posé avec un tableau dans toutes les églises du monde. Vous voyez un peu l'idée ? Non, bienheureux, ça veut dire prospère. Et l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Ensuite, il va et dit, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, ça veut dire la Bible. Hein. Et continue, il dit, et médite dans sa loi jour et nuit. Ensuite, il précise, il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point. Et tout, et notez bien, tout ce qu'il fait prospère. C'est pas dit la moitié ou 90%, c'est tout ce qu'il fait prospère. Donc la Bible nous montre cette image que Dieu veut que toute personne prospère à tous égards, dans tous les domaines, constamment. Dieu n'a jamais prévu que... Regardez, il y a cette idée un peu bizarre que des gens ont lancée, qui consiste à faire croire que Dieu envoie des malheurs ou envoie des épreuves pour nous tester et nous faire grandir. Vous avez déjà entendu ce concept-là ? Et en fait, c'est un concept qui est grave pour deux points. Enfin, trois points. Premièrement, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'aucune épreuve ne vient de Dieu. Vous savez que la Bible dit ça ? Jacques, chapitre 1, verset 14, dit... qu'aucune épreuve ne vient de Dieu. Maintenant, le deuxième point grave, c'est que cette idée-là fait supposer que Dieu doit utiliser le mal alors que Dieu n'est que bon, c'est-à-dire que Dieu utiliserait son opposé parce qu'il serait lui-même pas suffisant pour nous apprendre. C'est une erreur, ça. Dieu et son amour sont suffisants. La Bible dit que la bonté de Dieu nous tourne vers la vérité, que la grâce de Dieu nous tourne vers Dieu. Vous voyez un peu l'idée ? Dieu n'a pas prévu de vous envoyer un malheur pour vous apprendre quelque chose. Et un troisième point embêtant avec cette théologie, c'est que si vous pensez que Dieu vous a envoyé ce malheur, au lieu de vous battre contre ce malheur, vous allez vous reposer et attendre qu'il passe. Et ça, c'est une grosse erreur, parce qu'il y a des malheurs qui viennent pour détruire complètement la personne. Prenez un exemple d'une maladie grave. Prenez un exemple d'une chose gravissime qui arrive. Imaginez une personne qui perd tout, toutes ses économies, toute sa maison, tout. Vous pensez vraiment que Dieu envoie ça ? Ces choses viennent pour voler une destinée. Parce que si vous avez une destinée qui est merveilleuse, et que quelqu'un arrive à vous la voler, vous n'allez pas l'accomplir. Vous voyez un peu l'idée ? Et ça, c'est important. Il ne faut pas croire que Dieu est derrière ces choses. Parce que si on croit que Dieu est derrière ces malheurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'y accommoder. Vous voyez un peu l'idée ? On va dire, c'est bon, c'est Dieu qui est derrière, je vais le vivre avec. Et ça, c'est une erreur gravissime. Ok ? Vous êtes prêts à suivre ? Josué 1,8. Josué chapitre 1, verset 8. Vous voyez, c'est ça qu'on a une vraie compréhension de Dieu. Quand quelque chose essaie de venir contre nous, au lieu de se dire, peut-être que Dieu le voulait. Non. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et médite-le jour et nuit, notez bien, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Et il explique, car si tu fais ça, regardez, alors tu feras réussir tes voies, alors tu prospéreras. Donc il dit, regardez, c'est intéressant, il dit, si tu prends la parole de Dieu, que tu la méditer, ça veut dire la comprendre, voyez, réfléchir, pondérer dessus, et que derrière, tu la mets en pratique, regardez, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Donc faire, on met en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Il dit, le résultat, c'est que tu réussiras et tu prospéreras dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, pour le contexte, Dieu, il parle à Josué, là. Josué, qui était un homme militaire. Intéressant, hein ? C'est un homme de guerre. Il devait conduire tout un pays pour prendre un territoire. Donc c'est une charge qui est extrêmement lourde, c'est ça que j'essaie de dire, en fait. Il a la responsabilité de la vie de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Oui, on ne parle pas d'un truc simple, n'est-ce pas? C'est pas pour dire, mais des fois, je trouve que les choses qu'on interprète comme étant des épreuves, comparées à ce que certaines personnes ont vécu, et même vivent encore aujourd'hui, c'est des épreuves qui sont très simples à gérer. Là, on parle d'un gars qui avait une responsabilité militaire très importante. Et à l'époque, il n'y a pas d'enfant, c'est bon. À l'époque, une charge militaire, et encore aujourd'hui, était liée à une guerre. Vous comprenez? Ce qui veut dire que s'il se plantait, il y avait des gens qui mourraient. Vous voyez un peu la gravité? S'il faisait une erreur, il allait avoir sur la conscience et sur sa responsabilité la vie d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc c'est quelque chose de sérieux, vous voyez? Et Dieu vient et lui dit, si tu appliques la parole de Dieu, tu réussiras et tu prospéreras. C'est intéressant quand même, hein? J'aimerais qu'on voie le verset suivant encore en verset, s'il vous plaît. Qui est Proverbe 2, 6 à 7. Proverbe chapitre 2, verset 6 à 7. Maintenant, j'aimerais que vous voyez que tous ces versets qu'on voit, ils nous pointent toujours vers la direction de la prospérité. C'est la parole de Dieu. Toujours. Il dit toujours, c'est la parole de Dieu qui fait que vous prospérez dans le domaine où vous êtes. Il dit, car l'Éternel donne la sagesse. Regardez ça. De sa bouche procèdent la connaissance et l'intelligence. Donc, il dit que la connaissance et l'intelligence sont issues de la bouche de Dieu, de sa parole. C'est intéressant quand même, hein? Ce qui veut dire qu'on prospère à tous égards. Maintenant, la Bible, donc, qui est la parole vivante et permanente de Dieu, est suffisante pour édifier et construire en tout point. Quel que soit le domaine de vie dans lequel vous voulez progresser, la Bible est suffisante pour vous faire avancer dans ce domaine. Toujours. La parole de Dieu est suffisante. Vous êtes bien concentré, n'est-ce pas? Il dit, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Vous avez vu qu'il y a le pape François qui est décédé cette semaine. Je pense que personne n'a manqué cette information. Plusieurs personnes sont venues me poser la question par rapport à pourquoi est-ce que nous, on n'a pas de pape? Je vais l'expliquer. Ça, c'est pour votre connaissance générale de l'histoire de l'Église. L'Église a été fondée par qui? Par Jésus, pardon? Non, c'est pas Pierre, c'est Jésus-Christ qui a fondé l'Église. Intéressant. Donc Jésus-Christ a fondé l'Église et il avait nommé qui traditionnellement comme chef de l'Église? Ça, c'est la tradition catholique qui dit ça, pas la Bible. Pierre, exactement. Donc ils disent que Pierre était le premier pape. Vous avez déjà entendu cette expression, hein? Maintenant, le souci, c'est que l'Église catholique, dans son évolution, bien qu'elle était sincère dans la plupart de ses démarches, a fait des grossières erreurs. Vous voyez? Des erreurs graves. Et donc Dieu a dû susciter un homme qui s'appelait Luther. Ça vous dit quelqu'un, Luther? Et il arrive et il dit, Martin Luther. Et il arrive et il dit, je vois ces erreurs doctrinales graves dans la pratique catholique et il faut les corriger. Maintenant, au lieu d'accepter la correction, les ecclésiastes de l'époque l'ont mis dehors. Ils ont dit, on t'excommunie, tu ne fais plus partie de l'Église. Et il a donc dû lancer sa propre, entre guillemets, Église. Et donc, la question, pourquoi on n'a pas de pape, nous, par exemple? Eh bien, c'est assez simple. C'est le concept qu'on appelle sola scriptura, ce qui veut dire que l'autorité finale du chrétien, c'est la Bible, toujours. Et d'autres religions chrétiennes, qui aiment Dieu d'ailleurs, hein, je ne suis pas en train de remettre en cause leur salut, hein, vraiment pas, hein, un catholique qui aime Dieu va aller au ciel, tout comme un protestant qui aime Dieu. Hein. Donc, ou un orthodoxe, peu importe, c'est une personne qui aime Dieu et qui suit Jésus-Christ, elle va aller au ciel. Et donc, il y a ce concept en fait qui fait croire dans certaines théologies que la Bible n'est pas suffisante en elle-même, qu'il y a d'autres sources infaillibles de vérité. Et c'est par exemple le cas du pape, où il pense que le pape est une source de vérité absolue. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui s'appelle ex cathedra, ça devient une vérité absolue. Vous voyez un peu l'idée? Par exemple, l'Immaculée Conception. Tout le monde sait ce que c'est l'Immaculée Conception ou je l'explique vite? Je vais vite l'expliquer. L'Immaculée Conception est cette doctrine qui dit que Marie est née sans péché. D'accord? Ça, c'est une doctrine qui a été inventée dans les années 1800. Ce n'est pas un truc qui est dans la Bible. Vous voyez un peu l'idée? Et vu que le pape l'a déclarée comme doctrine absolue, l'Église catholique maintenant enseigne ça comme un dogme absolu et incontestable. Vous voyez un peu l'idée? L'Assomption. Vous voyez ce que c'est l'Assomption? C'est le fait que Marie a été... Pas l'Ascension, hein. L'Assomption c'est le Christ. Hein. L'Assomption c'est le fait que Marie aurait été enlevée vivante au ciel. C'est pas un truc qu'on trouve dans la Bible ça. Donc une des raisons, on n'est pas contre, vous devez comprendre ça par rapport au pape, on n'est pas contre l'idée d'avoir une autorité qui nous aide à interpréter les Écritures. Nous on a Pasteur Chris par exemple qui nous aide à faire ça. Ce qu'on est contre c'est qu'on va dire que c'est pas une parole infaillible. C'est-à-dire que l'interprétation ou la tradition peut comporter des erreurs. Tandis que dans la doctrine catholique ou orthodoxe, par exemple, ils vont dire que absolument toutes les traditions et absolument toutes les proclamations du pape ou du pope, ils s'appellent le leur les orthodoxes, sont infaillibles. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur. Et le problème, c'est que doctrinalement, c'est faux. Par exemple, l'idée de prier des saints. Vous savez comment ils prient les saints? C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, il va avoir le saint de, je sais pas, de la santé, le saint de l'argent, le saint des pauvres, et ils doivent adresser la prière au saint qui est au ciel, et lui ensuite va prendre la prière et l'amener à Dieu. C'est leur théologie. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même est le seul médiateur. Il n'a pas dit un des médiateurs, il a dit le seul médiateur. Et Jésus-Christ a dit, vous ne prierez au travers de personne, mais vous prierez directement le Père en mon nom. Vous voyez un peu l'idée? Donc on ne peut pas derrière venir et commencer à prier des saints. Ce n'est pas permis. Et la chose étant, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi j'ai pris un saint, puis j'ai vu tel résultat. Ok, franchement, tant mieux. Mais juste parce qu'on voit des résultats, ne veut pas dire que c'est juste. D'accord? Il y a des gens qui deviennent très riches en trichant. Vous voyez? Et on ne peut pas dire que c'est des résultats qui soient beaux. Je crois qu'on est d'accord. Hein. Donc le principe de sola scriptura, c'est un principe théologique qui dit que la Bible est l'ultime autorité. Vous voyez un peu l'idée? On n'est pas contre le fait qu'on l'interprète, qu'on ait des traditions bibliques. Par exemple, chez nous, on a des traditions chrétiennes. Vous voyez un peu l'idée? Il y a plein de petites choses comme ça qui ne sont pas exactes dans les Écritures. Par exemple, vous avez déjà vu la crèche de Noël. Vous avez déjà vu les crèches de Noël? Qui c'est qui a déjà dû faire une crèche vivante quand ils étaient petits ici? L'horreur. On devait faire Joseph puis pas bouger pendant des heures. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la crèche souvent? On voit les trois rois mages qui arrivent et qui donnent leur cadeau. La Bible dit que Jésus avait 2 ans quand les rois mages sont arrivés. Et pourtant, je ne sais pas, on les met toujours dans la crèche. Comme si Jésus était resté 2 ans dans une crèche. Non, c'est une erreur, une petite erreur, mais ce n'est pas grave, vous voyez. Moi, quand j'ai ma crèche, je mets les trois rois mages parce que c'est toujours joli. D'ailleurs, il y en avait combien des rois mages? 3? La Bible dit nulle part qu'il y en avait 3. C'est dit qu'il y avait 3 cadeaux. Ça se trouve, c'était 100 gars qui sont arrivés d'un coup comme ça. On ne sait pas. Vous voyez un peu l'idée? Donc, il y a plein de petites traditions comme ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement dans la Bible. Vous voyez un peu l'idée? Et la Bible, c'est l'autorité finale. Toujours pour le chrétien. Et par exemple, l'idée de prier les saints ou de prier Marie, par exemple. Même Marie a dit, j'ai besoin d'un sauveur. Comment est-ce qu'elle peut être sans péché si elle a besoin d'un sauveur? Vous voyez un petit peu la réflexion? Donc, il faut vraiment des fois retourner à la Bible elle-même et voir ce qu'elle a à dire. Pourquoi? Parce que cette même parole nous amène une prospérité absolue et constante. Regardez ce que Jésus a dit. Je ne crois pas que c'est dans le texte, mais prends voir Marc, chapitre 7, chapitre 13, verset 7. Donnez-moi une seconde, je vais juste aller regarder. Je crois que c'est chapitre 7, verset 13. Donnez-moi une seconde. Regardez ce que Jésus dit. Parce que, vous savez, l'exemple ultime pour le chrétien, c'est Jésus-Christ. Hein. Vous êtes d'accord de ça, hein? Alors, chapitre 7, verset 13. Oui, c'est bien ça, Marc 7, 13. Regardez ce que la Bible dit. Bah, ça, c'est Jésus qui parle avec des mecs qui étaient l'autorité ecclésiastique de l'époque. Ok, regardez ce qu'il dit. Il dit, donc ça, c'est Jésus qui dit, il dit, annulant ou vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns et les autres. Et vous faites beaucoup de choses semblables. Donc Jésus-Christ, il dit, faites attention, les traditions, ce n'est pas mauvais en soi, n'est-ce pas? Mais ces traditions-là, elles peuvent annuler ce que Dieu veut faire. Par exemple, une tradition qu'on a toujours dit, et que si vous regardez un peu, vous savez, la Bible parle énormément de guérison physique, de miracles, de gens qui sont guéris par Dieu dans leur corps physique. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que les gens ne vivaient pas ces guérisons-là, ils ont commencé à dire, non, mais ça parle de guérison spirituelle. Vous avez déjà entendu des gens qui disent ça. Non, mais c'est spirituel. Quand il dit qu'on est guéri, il parle de notre être intérieur. Pourtant, si vous regardez le texte original, il parle de guérison de maladies physiques. Vous voyez un peu l'idée? Et en fait, cette tradition, cette interprétation fausse nous fait croire maintenant, par exemple, que la guérison est plus valable. Vous avez déjà entendu des chrétiens qui disent Dieu guérit plus aujourd'hui. Il y a cette idée-là, mais c'est faux. Jésus-Christ guérit aujourd'hui encore. Vous voyez un peu l'idée? Jésus-Christ est en nous. Par exemple, il y a des passages à plus en finir dans la Bible sur le fait que Dieu veut qu'on soit riche financièrement pour pouvoir aider les autres. Il veut qu'on soit riche, mais il y a une idée derrière. Ce n'est pas juste pour s'acheter des voitures. Hein. Il veut qu'on soit riche pour qu'on puisse aider les autres dans notre œuvre. Il y a des gens qui ont dit non, mais c'est une richesse intérieure. Ou par exemple, le vœu de pauvreté. Vous avez déjà entendu ça? Le vœu de pauvreté, il y a des gens qui font des vœux de pauvreté où ils promettent d'être pauvres. Vous savez comment elle appelle la Bible la pauvreté? Elle dit que c'est une malédiction. Vous saviez ça? C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Ouais, je n'étais pas sûr d'avoir entendu. La Bible appelle le fait de ne pas avoir d'argent une malédiction. Il y a des gens qui disent, je fais un vœu d'être maudit, en fait. Vous voyez un petit peu à quel point ce serait dénué de sens. Et aussi, j'ai vu, mais ça c'est beaucoup plus rare, dans certaines traditions, ils font des vœux de silence. C'est-à-dire, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Jamais. Des jours entiers, ils ne parlent pas. Alors que la Bible dit que c'est par la confession qu'on arrive au salut. Vous imaginez un petit peu à quel point c'est déconnecté des fois? C'est pour ça qu'on doit vraiment être proche des Écritures, vous voyez, pour savoir ce qu'elles disent et qu'on vive dans ce que Dieu a pour nous. Parce que Dieu a pour nous des belles choses. Dites, Dieu a pour moi des belles choses. C'est la vérité. Dieu a pour vous des choses merveilleuses, il faut juste apprendre à y vivre. Ok, la Bible doit bien sûr être interprétée selon une autorité spirituelle établie, comme Pasteur Chris, mais l'autorité finale est dans les Écritures, toujours. D'accord? L'autorité finale, c'est l'écrit. Regardez ça. Et la voix de Dieu est cruciale pour comprendre les Écritures et vivre une vie quotidienne glorieusement guidée par le Saint-Esprit. Jean 10, 27. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a une parole écrite, mais Dieu vous parle à vous aussi. Vous savez que Dieu vous parle ? Même les non-croyants, ils peuvent entendre Dieu. Vous saviez ça ? On va le voir ensemble, vous en faites pas. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Le terme exact, c'est de l'entendre, vous savez, le fait d'entendre. Et moi, je les connais et elles me suivent. Donc là, Jésus-Christ vient dire, mes brebis entendent ma voix. Vous savez que Dieu vous parle constamment. Dieu vous parle, toujours. Dieu oriente votre vie. Dieu souhaite interagir avec vous. Entendre la voix de Dieu d'une manière personnelle et non négociable. Parce que des fois, je me demande comment des gens... Peut-être c'est parce que j'ai le privilège d'avoir grandi dans une... dans une connaissance de Dieu. Mais je ne comprends pas comment des gens peuvent vivre leur vie sans être guidés par Dieu. C'est-à-dire qu'ils y vont comme ça, c'est un peu tâtonnement. J'essaie ici, ça ne marche pas. J'essaie ça, ça ne marche pas. Ah, j'essaie ça, ça a marché. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu l'idée ? Je fais ceci, je fais cela. Je tente mon coup ici. Ah, ça n'a pas marché. Vous voyez un petit peu quelle perte de temps ça peut être ? Et pourtant qu'on est guidé par l'Esprit du Dieu vivant. Tout d'un coup, on commence à avoir une vie qui s'aligne à la volonté de Dieu. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et c'est ça la beauté qu'on trouve dans l'Écriture. Une des raisons que nous n'entendions pas Dieu et que nous ne prêtons pas attention à sa voix. J'aimerais qu'on voie deux, trois endroits, parce que les gens disent « Oui, mais est-ce que si Dieu me parlerait, je saurais que c'est lui. » Vous avez remarqué, il y a des gens qui disent « Ah non, si Dieu me parlait, j'entendrais une trompette qui... » Vous voyez ? Non. Regardez ça. Actes 9, 1 à 6. Vous voyez qui c'est l'apôtre Paul ou pas ? Ce grand apôtre. Vous savez qu'au début, il tuait les chrétiens, cet homme-là ? Regardez ce qui se passe. Or Saul, donc Saul c'était son nom avant qu'il devienne chrétien, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, donc c'est un homme de mal, alla au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était l'équivalent, on pourrait dire, du pape, c'était le gars le plus important. Et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que s'il trouvait quelques-uns qui fussent la voie, ça veut dire les gens qui suivaient Dieu en fait, il les amena hommes et femmes liés à Jérusalem. Donc il dit, il y a Paul, cet homme-là, il déteste les chrétiens, il les hait. Il hait le Christ, il hait tous ces gens, il les déteste de tout son cœur. Et il dit, je vais aller demander au responsable de la synagogue de me faire une lettre officielle, comme ça quand je déboule dans les villes de Damas, si je trouve des chrétiens là-bas, je les amène à Jérusalem pour qu'on les mette à mort. Vous voyez un petit peu l'idée ? Pourquoi ? Parce qu'à Damas, en fait, ils n'avaient pas le droit d'exercer leur autorité. Ils n'avaient pas le droit à Damas de mettre les gens à mort. C'est une autre législation. Vous voyez, c'est comme si, vous savez, en Occident, les femmes ont le droit de se balader de la tête non voilée. On est d'accord ? Dans d'autres pays, c'est autre chose, hein. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc c'est une question de législation, on est d'accord. Donc c'est la même chose là. Verset 3. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il s'approcha de Damas. Et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ça c'est très intéressant. « Pourquoi me persécutes-tu » Donc quand quelqu'un vous touche, il touche Christ. Vous saviez ça ? Intéressant, hein ? Verset 5. Et il dit, qui es-tu Seigneur ? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Notez quelque chose, il a entendu la voix de Dieu. Vous avez remarqué ça ? Il a entendu clairement la voix de Dieu et il ne savait pas qui lui parlait. C'est intéressant ça, hein ? Donc Dieu peut vous parler sans que vous vous rendiez compte que c'est Dieu qui vous parle. Et donc il lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. On va voir un autre passage dans les Écritures, dans 1 Samuel. Vous êtes toujours là ? Vous êtes concentré ou vous êtes fatigué ? Ah, alors ça va. 1 Samuel 3, 2 à 10. Vous allez voir. Et il arriva quand ce temps-là, Élie était couché en son lieu, donc il était dans son lit. Or, ses yeux commençaient à être troubles, il ne pouvait voir parce qu'il était vieux. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel, donc Samuel, c'est un petit garçon de 8 ans. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Okay. Et l'Éternel appela Samuel. Donc regardez, là, il y a le petit Samuel qui est en train de s'endormir. Et tout d'un coup, Dieu, il dit Samuel. Et là, Samuel, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit me voici. Et regardez ce qu'il fait. C'est trop chou. Et il courut vers Élie et lui dit, voici, me voici car tu m'as appelé. Mais il dit, je n'ai pas appelé, retourne et couche-toi. Donc là, voyez un petit peu la scène, c'est quand même quelque chose de touchant, voyez, d'attachant. Il y a ce petit Samuel qui dort dans la présence de Dieu. Et donc, il y a Dieu qui l'appelle, il fait, Samuel ! Et là, lui, il entend, donc il entend la voix de Dieu. Et il dit, me voici, et il court vers son maître Élie, donc le responsable du temple. Et il dit, tu m'as appelé Élie ? Et il dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Regardez ce qu'il dit. Mais il dit, je n'ai pas la retourne. Et il s'en alla et se coucha. Regardez ça. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel ! Et Samuel se leva et alla vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Et il dit, je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne et couche-toi. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Vous voyez ça ? C'est très intéressant, ce qui veut dire que Dieu peut parler à des gens et les gens ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui leur parle. Et l'Éternel vint et se tint là et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel dit, parle. Car ton serviteur, on a passé un verset, je crois. Le 9. Voilà. Verset 8, on a sauté un verset. Et l'Éternel apparaît de nouveau Samuel pour la troisième fois. Donc là, Dieu a dû l'appeler trois fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et lui dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie s'aperçut que l'Éternel avait appelé le jeune homme. Donc là, Élie, il a compris. C'est Dieu qui l'appelle, ce n'est pas moi. Vous voyez un peu l'idée ? Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et s'il t'appelle, alors tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel s'en alla et se coucha en son lieu. C'est intéressant, pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas dit, « C'est moi, l'Éternel, qui te parle ?» Vous avez remarqué ça ? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas juste venu et a dit, « Samuel, c'est moi, c'est Dieu. Réponds-moi. » Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça ? Parce que la parole de Dieu vient vers quelqu'un et on doit être enseigné à lui répondre. Vous voyez un peu l'idée ? Samuel a dû être enseigné à répondre à Dieu. Regardez, c'est très intéressant. Et Samuel s'en alla et se coucha, et l'Éternel vint et se tint là et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel dit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et là, Dieu commence à parler à Samuel. Vous savez que Dieu vous parle ? Ça, c'est des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Hein. Si quelqu'un est né de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui. Imaginez à quel point vous pouvez entendre Dieu. Vous pouvez entendre Dieu. Dieu veut vous parler. La question d'entendre Dieu, c'est assez simple. J'aurais dû amener une vieille radio pour vous montrer l'exemple. Vous savez, ces vieilles radios, vous vous rappelez avec ce machin FM que vous deviez tourner pour être sur la fréquence parfaite ? Ça vous dit quelque chose ? Maintenant même, dans cette pièce, il y a des ondes radio de la RTS. Maintenant, il y a des ondes radio de... Qu'est-ce qu'il y a comme radio ? Lausanne FM, ça existe encore ? Vous voyez un peu ? Il y a des ondes radio qui passent constamment dans cette pièce. Maintenant même. Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas ? Parce qu'on ne s'est pas aligné, vous voyez, à la fréquence de la station radio qu'on veut écouter. Imaginez, juste donner un petit exemple. Christelle, tu peux juste éteindre la lumière ? Donne un petit exemple. Regardez, donc là, dans ces systèmes électriques qui forment l'infrastructure électrique qu'on utilise aujourd'hui, il y a de l'électricité qui passe. Cette électricité est disponible maintenant. Vous voyez un peu l'idée ? Maintenant, imaginons que je n'ai pas l'habitude de faire fonctionner des lumières. Imaginons que je ne suis pas convaincu que l'électricité passe et qu'il suffit d'appuyer simplement sur un interrupteur. Imaginons qu'on ne m'ait jamais appris à presser un interrupteur. Ça peut vous paraître bizarre, hein. Mais moi, je m'occupais à l'époque, on avait des clients qui venaient de Singapour et comme ça, et ils n'avaient aucune idée comment ouvrir les fenêtres. Parce qu'en fait, dans leur pays, les fenêtres sont très différentes, comme ils ouvrent. C'est les machins qui s'ouvrent. La première fois que j'étais aux États-Unis, vous savez, les États-Unis, ils ont ces fenêtres où on lève comme ça, c'est vraiment bizarre. Enfin, bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est leur manière d'être. Et en fait, je n'avais pas compris, j'étais vraiment buggé. Puis quelqu'un a dû m'expliquer comment on ouvre ces fenêtres. Moi, j'étais jeune. Donc, un peu de compassion, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, il y a des choses qui paraissent évidentes et qui sont disponibles maintenant, mais qu'on ne jouit pas. Donc là, imaginez que j'appelle les services industriels lausannois, les CIL. Puis je leur dis, s'il vous plaît, on a l'église, on a vraiment besoin de lumière. Qu'est-ce qu'ils me diraient ? Ils disent, mais vous n'avez qu'à ouvrir l'interrupteur. Ils vérifieraient si le compteur est bien là. Le compteur fonctionne, tout fonctionne. Vous n'avez qu'à allumer la lumière. Tu peux rallumer maintenant, merci. Et tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Et hop, l'électricité coule et on jouit de la lumière. Vous voyez un peu l'idée ? Même chose pour une télévision. Une fois que vous avez programmé les chaînes, tout ce qu'il faut faire, c'est se connecter à la chaîne et vous avez l'information qui vient. Donc ce qui montre que Dieu nous parle constamment. La question c'est, est-ce qu'on a mis notre fréquence pour entendre la voix de Dieu ? Vous voyez un peu l'idée ? C'est beau ça, hein ? Ce qui veut dire que si Dieu nous parle, c'est à nous de nous calibrer pour recevoir la communication que Dieu a pour nous. Simple. Dieu veut vous parler plus que vous voulez entendre Dieu, vous savez ça ? Dieu vous aime plus que vous ne pourriez l'aimer. Dieu vous aime vous individuellement et il vous a vous en tête. La Bible dit qu'il n'y a aucun cheveu qui tombe de vos têtes que Dieu n'est pas au courant de cela. C'est quand même beau, c'est profond. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu vous a en tête. Vous pensez que la situation difficile que vous traversez, Dieu ne le sait pas ? Sincèrement parlant, vous pensez que Dieu n'est pas au courant de ces situations ? Vous pensez que Dieu n'a pas un plan pour vous y sortir et vous faire marcher dans la gloire et la victoire ? Non, c'est là que l'importance d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Vous voyez un peu l'idée ? Entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est de notre ressort. Vous voyez un peu l'idée ? C'est Dieu qui veut ça pour nous. C'est Dieu qui a prévu une fréquence sur laquelle on doit se connecter pour entendre sa voix. C'est aussi simple que ça. Vous êtes toujours là ou vous dormez ? Ok, alors ça va. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu ? Si des gens comme Saul, donc, qui est devenu Paul, et Samuel, qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, ont pu entendre Dieu, combien plus forte raison nous pouvons entendre Dieu ? Dieu nous parle constamment. Et ce n'est pas un problème de reconnaître sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Si Dieu vous parle, vous le saurez. Il n'y a pas de mystère. Dieu vous parle. La question, c'est est-ce que vous avez appris à écouter et à répondre à cette parole de Dieu ? Parce que Dieu vous parle constamment. Combien de fois il y a des gens qui disent des choses du type je savais que j'aurais dû faire ça ou je savais que j'aurais pas dû faire ça. Quelque chose m'a dit que j'aurais dû faire ça. Vous avez déjà entendu des gens qui disent un peu comme ça ? Ah, j'ai une intuition. Les gens appellent ça l'intuition des fois. Dans la plupart des cas, pas tous, mais la plupart des cas, c'est Dieu qui parle dans ces cas-là. Vous savez, Dieu il dit, fais pas ça. Il y a aussi la conscience. Dieu vous dit, hein, vous avez cette conscience à l'intérieur de vous qui vous dit, faites pas ça, faites pas ça. Et les gens trichent leur conscience. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Ne trichez jamais votre conscience. Si votre conscience vous dit quelque chose, à moins que ce soit en contradiction avec Dieu, faites-le. Si votre conscience dit, ne va pas à cet endroit, n'y allez pas. Ok ? Vous êtes là ? Donc la question, c'est de se connecter à cette voix de Dieu pour marcher dans la victoire et vivre dans la victoire. Parce qu'on a vu que cette parole de Dieu, bien sûr, il y a la parole écrite, mais il y a la parole de Dieu pour vous. Pour vous individuellement. Vous êtes là ? Cool, cool. Donc il y a une parole de Dieu pour vous. Dieu vous connaît vous individuellement. Dieu vous a en tête vous. Dieu a en tête, vous aimez dire tous les êtres humains, donc est-ce que ça fait de moi une exception ? Non, effectivement, Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas ? Dieu a de l'amour illimité pour le monde entier. Mais la question c'est, Dieu a un plan pour vous, spécifique à vous. Vous êtes une personne unique que personne ne peut imiter. Dieu a votre vie dans sa main, il a son plan pour vous, il a une idée pour vous. Vous vous rendez compte que Dieu a des idées et des pensées pour vous ? Vous savez que Dieu pense à vous ? Dieu pense à vous. Et il a des idées pour votre vie, pour que vous puissiez marcher dans la prospérité et la gloire. Dieu a des plans pour vous, individuels. La question c'est que comment est-ce qu'on va entendre cette parole de Dieu ? Comment est-ce que cette parole de Dieu nous est transmise ? Je m'assois un petit coup. Comment est-ce que Dieu arrive à nous parler ? Vous voyez à quel point c'est important d'entendre Dieu ? Et Dieu, je peux vous garantir, des fois parle d'une manière extrêmement précise. J'ai eu des cas où Dieu m'a montré ce qu'il y avait dans la pensée d'une personne. Je ne peux pas afficher la personne, mais peut-être que vous aurez l'occasion de voir si on en parle entre nous. Dieu m'a montré ça. Il y a des cas où Dieu m'a même dit quelle entreprise appeler, à quel moment et qui demander dans l'entreprise pour les affaires que je fais. Dieu veut vous parler, vous guider, sincèrement. Dieu veut vous parler, vous. Dieu vous aime, vous. Dites Dieu m'aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ou pas ? C'est un truc sérieux à part ça. C'est un concept qui est important. Dieu vous aime, vous. Et qu'est-ce que ça veut dire si Dieu vous aime, vous ? On parle d'un Dieu tout-puissant. On ne parle pas d'un père ou d'une mère qui vous aime de tout son cœur, mais qui est un peu limité. On parle de Dieu. Dieu sait tout. Vous savez que Dieu sait tout ? Réfléchissez un petit peu. Dieu sait combien il y a de cheveux sur vos têtes d'une manière permanente. Et quand on regarde d'ailleurs, parce qu'en fait c'est Jésus qui a dit, il a dit, aucun de vos cheveux ne tombe, que votre Père Céleste n'en prenne note. Et en fait le terme, il fait sous-entendre une comptabilité analytique. Qui c'est qui se connaît au compta ici ? Qui a déjà fait un peu de compta ? Personne ? Ok, parfait. La comptabilité, un petit peu. Okay. La comptabilité analytique, ça vient avec les numéros de pièces comptables. Ça dit quelque chose, hein ? Ok. Donc en fait, c'est comme si Dieu avait chacun de vos cheveux avec une numéro de pièces comptables, et s'il tombe, il va prendre note dans le bilan, hop. Enfin, peut-être pas un iPad, mais on s'est compris. Il va prendre note, hop, Fatimata a perdu un cheveu. Et il va noter. Vous savez ça ? Ça montre à quel point Dieu vous aime, vous. Dites Dieu m'aime, moi. Et donc Dieu souhaite vous guider. Il souhaite vous orienter dans les choses qui sont justes. Il y a plusieurs manières dont il va le faire et plusieurs manières dont on entend sa voix. Donc vous devez être conscient de sa voix, d'accord ? La première chose, c'est passer du temps à étudier les Écritures. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. C'est pour ça qu'on parle d'une voix perceptible. Dieu vous parle à vous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit l'humain de Dieu. C'est ça qu'il dit. Hein. Il ne parle pas juste des mecs. Hein. Que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli, c'est marrant, il dit accompli, et ensuite on va grandir pour être encore plus parfaitement accompli. Vous voyez à quel point on doit grandir et être accompli dans les choses justes ? C'est beau ça, hein ? Donc il y a quelque chose d'accompli qui se produit. Regardez encore. Pour toute bonne œuvre. Donc, il dit que l'être humain soit accompli et qu'ensuite il soit encore plus accompli pour toute bonne œuvre. Littéralement, c'est le terme parfait. Ok, vous voyez un petit peu, donc il faut passer du temps dans les Écritures. Laissez les Écritures vous inspirer. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses qui m'inspirent des fois, tout le temps, quand je lis la Bible, je suis toujours inspiré à faire plus. Je vois la prospérité de Dieu, je vois l'amour de Dieu, la santé de Dieu, toutes ces merveilles que Dieu a pour nous. C'est pour ça qu'on vient à l'Église aussi, pour comprendre la parole de Dieu, vous voyez ? 1 Corinthiens 14, 13. L'autre chose, c'est de parler et prier en langue, comme on a vu dans le rhapsodie d'aujourd'hui. Ah, si vous priez en langue, vous allez marcher dans une telle victoire. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Donc quand vous parlez en langue, vous pouvez interpréter dans un langage courant ce que vous avez dit dans votre langage en langue. Et ça marche vraiment. Vous savez, tu peux juste enlever le verset deux secondes. Quand Dieu m'a parlé, vous savez, il y a quelque chose d'assez intéressant. Dieu vous parle de l'intérieur. Vous voyez ? Dieu ne vous parle pas, ou rarement, ça peut arriver, mais moi je n'ai jamais eu de cas où j'ai entendu ça. Enfin, j'ai entendu une seule fois où ça arrivait à une personne que je connais. Dieu ne parle pas de l'extérieur, genre une voix qui vous parle. C'est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce que si Dieu devait parler par une voix audible, ce ne serait plus une œuvre de foi. Vous comprenez ? Il n'y aurait pas de foi, parce que genre, c'est évident, c'est Dieu, quoi. Donc, Dieu vous parle de l'intérieur de vous. Et quand Dieu vous parle de l'intérieur, il faut entendre sa voix et il faut filtrer ce qui vient de Dieu ou ce qui vient de nous. Vous voyez un peu ? Parce que nous, on peut rajouter des choses dans notre compréhension de ce que Dieu dit. Donc, moi, j'étais dans cette situation où Dieu m'a dit « Quitte ton travail et démarre l'entreprise. » Et en fait, ça avait l'air complètement fou de faire ça parce que l'entreprise ne tournait pas au point où je pouvais simplement quitter mon travail et arrêter. D'accord ? Je n'avais même pas assez pour payer mon loyer, c'est juste vous dire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? La première chose, c'est que j'ai été voir dans les Écritures. J'ai été voir dans la Bible. Est-ce que la Bible... Dieu m'avait donné cette indication, écoutez bien. Il m'avait dit, quitte ton travail pour prêcher Jésus partout et à tout le monde. Et tu fais ton entreprise à côté. En gros, c'était ça, le message que Dieu avait mis dans mon cœur. Et en fait, une des premières choses que je fais, c'est parfois, je laisse l'épreuve du temps filtrer. Si ça reste dans mon esprit encore longtemps, je me dis, c'est sûrement Dieu qui me parle. Vous voyez un peu l'idée ? La deuxième chose, allez regarder dans les Écritures. Ça, c'est, je vous donne des exemples, des pas concrets, hein, des étapes concrètes. Allez regarder dans les Écritures écrites si c'est en accord avec ce que Dieu enseignerait dans sa globalité. Par exemple, si vous avez dans votre cœur ou dans votre, je vais pas dire le cœur, dans votre esprit plutôt, dans votre voix intérieure, quelque chose qui vous dit une instruction complètement contraire à ce que la Bible enseignerait, ne le faites pas, c'est pas Dieu. D'accord ? Par exemple, si quelqu'un vous dirait « Va et fais une entreprise en trichant et en trompant les gens », c'est clair que c'est pas Dieu, d'accord ? Ensuite, la troisième chose que j'ai appliquée, c'est j'ai prié en langue et je demande l'interprétation. Donc je prie dans les langues spirituelles, ensuite je demande l'interprétation au Seigneur. Vous voyez ? Et l'interprétation, c'était marrant parce qu'elle est venue au travers d'un pasteur. J'ai prié en langue et ensuite j'écoutais le pasteur. Et le pasteur a dit, quand Dieu vous parle, filtrez savoir si c'est Dieu ou pas. C'est simple. Il a dit la première chose, c'est que juste parce que Dieu vous a parlé, il ne veut pas dire que les circonstances se sont magiquement organisées. Hein. Au contraire, les circonstances peuvent avoir très contraires. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit, une grande porte m'a été ouverte. Où c'est qu'il dit ? À Éphèse, peut-être ? Il dit une ville. Il dit une grande porte. Dieu m'a ouvert une merveilleuse opportunité à Éphèse. Et il dit quoi, juste derrière ? Et là, quel terme utilise ? Et les forces contraires sont très fortes. Et les attaques sont très fortes. Les défis sont très forts. Donc il dit, une grande porte m'a été ouverte. Et un des trucs qu'il a mesuré, c'est qu'il dit, il y a plein de défis et plein de choses à régler. Gloire à Dieu. Je vais aller tête baissée. Donc juste parce que Dieu vous a parlé, il ne veut pas dire que tout s'est magiquement aligné. D'accord ? Juste que ce soit clair. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Le pasteur, il disait, il y a trois personnes qui peuvent vous parler. Vous-même, vous parlez à vous-même, c'est possible. Hein. Numéro 2, c'est Dieu. Numéro 3, c'est le diable. Il a dit filtrer simplement avec la logique de la parole de Dieu. Et moi, j'ai filtré et je me suis dit, est-ce que moi, je partirais de mon travail comme ça, un travail où j'avais une très bonne position et tout ça ? Non. Est-ce que le diable me dirait d'aller prêcher Jésus partout à tout le monde ? Non. Ça, c'est clair que non. Donc, je dis, ça peut que être Dieu. Donc, j'ai parlé à mes parents. Et le lundi, j'ai envoyé un email parce qu'en fait, j'étais juste sous la directrice générale. Donc, je lui envoie un email en disant, bon, je pars. Et la RH m'appelle, elle fait « Tu pars pourquoi ?» Je fais « Parce que Dieu m'a parlé, parce qu'il savait que j'étais très chrétien. » Et ça a été un succès phénoménal. En un mois, ça a fait fois 10 l'entreprise, sans que je fasse rien de spécifique. C'est Dieu qui est derrière ces genres de choses, il faut le reconnaître. C'est Dieu qui parle. Et donc, regardez, j'ai beau être un homme qui aime Dieu, vous avez beau être une femme qui aime Dieu, si vous n'appliquez pas des processus personnels, vous n'allez pas marcher dans ce que Dieu a pour vous. Et la première chose à savoir, c'est de se remplir de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que cette parole de Dieu va vous aider à filtrer, vous voyez un peu l'idée ? À filtrer ce qui peut venir dans votre tête. Vous savez, beaucoup de gens pensent être victimes de leurs pensées. C'est faux. Hein. Vous savez, ils disent « Ah, j'ai des pensées intrusives, j'ai ci, j'ai ça. » C'est faux. On n'est pas victime de nos pensées, on est maître de nos pensées. C'est nous qui décidons ce dont nous pensons. C'est nous qui décidons si on accommode ou pas tel type de pensée. Vous voyez un peu l'idée ? C'est nous qui décidons si oui ou non on accommode des réflexions fausses. C'est nous qui décidons si oui ou non on accommode la peur. Si la peur vient, elle peut tenter de venir, je ne dis pas qu'elle ne va jamais tenter de venir, mais si elle vient, c'est à nous de dire oui, je l'accepte ou non, je la refuse. La situation est telle que si on ne la refuse pas proactivement, elle va quand même s'installer. Vous voyez un peu l'idée ? J'aime bien prendre cet exemple. Nous, on avait une voisine qui était très chouette. Elle s'en est allée malheureusement, mais très très chouette. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais elle avait l'habitude de garder sa porte ouverte. Vraiment, la porte de la maison était constamment ouverte. Tu te rappelles, papa, hein ? Donc, et cette porte qui était constamment ouverte, comme ça. Et il y avait toujours un chat, il y avait toujours des... Parce qu'on vivait dans un quartier résidentiel qui était en cul-de-sac. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a jamais de voiture qui passait, si ce n'est les résidents. Et c'était un truc vraiment un peu, je ne vais pas dire fermé, mais un petit peu tranquille, il n'y a personne qui venait, quoi. Et en fait, tout le monde laissait les chats se balader comme ils voulaient, tout ça. Et en fait, il y avait toujours des chats qui rentraient dans les maisons, tout le temps. Surtout quand tu laisses la porte grande ouverte. Vous voyez un peu l'idée ? Donc, il y avait toujours ce chat qui venait. Et une fois, elle en a eu marre, elle a préparé un truc d'eau. Et le chat, il est venu et voilà, il a ramassé l'eau. Il n'est plus jamais revenu. Vous voyez un petit peu l'idée ? Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé de ne pas laisser ce chat venir s'accommoder dans sa maison. Vous voyez un petit peu l'idée ? Est-ce que vous allez laisser un chat, pour le coup, vous avez compris la référence avec la pensée, venir et s'accommoder chez vous ? Moi, je me rappelle une fois, il y avait eu. Nous, on a un assez grand jardin, un très grand jardin même. Et parce qu'il est devant, derrière et sur le côté, donc c'est vraiment grand. Et en fait, il y avait toujours des gens avec leur clébard qui le laissaient venir chez nous. Toujours, on avait des chiens qui venaient se balader dans le jardin. Et une fois, il y en a un qui a commencé comme ça, il se posait, puis il a commencé à faire son affaire, vous voyez. Et maman, elle a ouvert la porte, elle a fait « Dégage, loin, loin, loin !» Le chien, il a couru, il est parti en courant, le pauvre. Et je me suis dit, mais regardez, si elle l'avait laissé faire, il aurait fait son histoire. Il ne vient pas demander une permission, c'est un chien. Il n'a aucune conscience de demander la permission. C'est la même chose pour une pensée qui est négative et qui est contre ce que Dieu veut. Est-ce qu'on va l'accommoder ou pas ? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on va lui dire « Dans le nom du Seigneur Jésus, sors de ma tête !» Et ça marche. Croyez-le bien, ça marche très bien. Il faut juste apprendre à le faire. On avait toujours ces klebs qui venaient se balader, ça me fait rire, parce que vraiment, tous les temps de temps, il y avait un chien qui se baladait, parce qu'en fait, notre maison, elle est très entourée comme ça. Et genre, vraiment, il arrivait devant, et je ne sais pas ce qu'il faisait, il voulait aller voir un truc derrière et tout, hop, et il passait, puis vraiment, deux, trois secondes après, on voyait le maître qui lui courait après, genre, reviens, reviens. C'était assez drôle. Puis tous ces chats qui se baladaient, papa, quand même. On a des chats partout. Hein. C'est un joli quartier. On a une belle enfance. Et donc, vous voyez, toutes ces choses font qu'on doit accommoder uniquement les pensées qui viennent de Dieu. Vous êtes toujours là ? Une des manières de se connecter à Dieu, c'est d'écouter sa conscience, sa voix intérieure. Romains 2, verset 15. Alors, attention à une chose avec la conscience, c'est que la conscience peut être trompée aussi. Hein. Par exemple, il y a des gens, et vu qu'ils n'écoutent pas leur conscience devient de plus en plus faible dans leur voix. Vous voyez ? Regardez. Et elles montrent l'œuvre de la loi, écrit dans leur cœur, leur conscience, écoutez bien, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. Donc il dit, ces gens-là ont une conscience, tout le monde a une conscience. Les gens dénués de conscience n'existent pas. La question c'est, cette conscience, elle est pure à la base, mais elle peut être trompée. Vous voyez un peu l'idée ? Par exemple, il y a des gens à qui leur conscience a dit, ne fais pas ça, et ils l'ont fait une première fois. Par exemple, est-ce que vous connaissez des gens qui prennent... Tout le monde connaît ça, je ne vais même pas en parler. Tout le monde ici connaît des gens qui ont déjà pris des drogues dures. Vous voyez un peu l'idée ? Des drogues dures. Je vous garantis que la première fois qu'ils ont été confrontés à cette drogue, ils avaient une voix qui leur disait « ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas ». Même pensez à vos situations à vous. Je ne dis pas que vous preniez de la drogue dure, hein, c'est pas ce que je dis, mais pensez à vos situations à vous où vous avez votre conscience qui vous disait « ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Et on le fait quand même, et au fur et à mesure, cette conscience devient de plus en plus plate. La voix a de moins en moins d'impact. Et à contrario, la conscience peut prendre une autre dimension. Par exemple, si vous êtes constamment sous la condamnation et le jugement, votre conscience peut vous parler sur des choses qui ne sont pas graves. Par exemple, j'avais une connaissance qui était tellement condamnée tout le temps par ses parents, par l'église et tout ça, que s'il lisait un gros mot, par exemple dans les toilettes, il disait une fois, il était exposé dans les toilettes, il y avait un gros mot, il l'a lu et il s'est senti mal pendant des jours. Juste le fait d'avoir lu le gros mot. Et bien sûr, Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez lu par accident un gros mot. On est d'accord ? Donc la conscience c'est bien, mais il faut juste faire attention. Si tu peux prendre Hébreux, s'il te plaît. Donc la conscience, il faut la purifier avec la parole de Dieu. Donc c'est bien d'écouter sa conscience, mais ne taisez pas votre conscience. Si votre conscience vous dit quelque chose, croyez-la et agissez en conséquence. Si vous êtes sur le point de faire quelque chose et votre conscience vous dit ne fais pas ça, tu sais que c'est mal, je vous conseille fortement de l'écouter. D'accord ? Regardez. Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ? Donc il dit, votre conscience, pour être utilisée à bien, doit être purifiée par la connaissance de Dieu. Vous voyez ? C'est beau ? Ça vous suivez toujours ? Et ensuite, une des manières d'écouter Dieu, et on va terminer avec ce point-là, c'est Matthieu 28, 20, c'est d'être conscient de sa présence constante. Vous savez que Dieu est toujours avec vous. C'est un fait. Ce n'est pas une promesse, hein, soit dit en passant. Regardez, Juste prendre ce passage-là. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. La consommation du siècle, c'est un vieux terme français qui veut dire jusqu'à la fin du monde. D'accord, c'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais en gros, ça. Donc Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que vous êtes conscient que là où vous êtes maintenant, parce qu'à l'église, c'est facile d'être conscient que Dieu est là. Vous voyez, je vous dis, Dieu est là, vous êtes là, ouais, c'est vrai, Dieu est avec nous, amen, amen. Bon, il faut des trucs comme ça. Mais il faut être conscient de ça. Partout où vous allez, quand vous allez au fitness, c'est Dieu qui est avec vous. Quand vous allez au travail, Dieu est avec vous. Quand vous êtes dans le train, Dieu est là avec vous. Vous devez être conscient de cette réalité. Dieu est là avec vous et vous pouvez lui parler. Une des manières de l'entendre, c'est aussi de lui parler. Vous avez déjà vu ces gens qui... Bon, là, vous dites, Joachim, tu fais un discours. C'est pas forcément différent, mais les gens où ils parlent tout le temps dans la conversation. Vous ne pouvez pas en placer une. Vous avez déjà entendu ça? Des fois, c'est un peu ça avec nous. Hein. On parle à Dieu, nos problèmes, c'est ici, ça, ça, ça. Et Dieu ne peut pas en placer une. Écoutez-le. Il veut vous parler et il veut vous diriger dans la victoire. OK? C'est clair pour tout le monde? Super. Dites Dieu m'aime, moi. Dites Dieu veut ma prospérité. Et dites j'entends sa voix. C'est très important d'entendre la voix de Dieu pour que vous puissiez marcher dans la victoire qu'il a pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors.